Monsieur Truchon, au sujet des béatitudes, je pense que vous vous préoccupez des fausses interprétations qu'on pourrait leur donner par opposition à celle qui serait sans doute la véritable, l'authentique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord qu'est-ce que vous concevez comme une interprétation qui serait fausse?
Oui, si on étudie les auteurs qui parlent des béatitudes, on peut repérer facilement trois fausses interprétations des béatitudes et une vraie. Alors, les trois fausses interprétations. La première fausse interprétation de béatitude, c'est qu'il y a des auteurs qui ont dit que ce n'était qu'une reprise de l'Ancien Testament. Alors, évidemment, ça crève les yeux un peu que les béatitudes ou le Nouveau Testament, c'est pas une reprise de l'Ancien. Qu'on pense, par exemple, à l'amour des ennemis. On sait que Israël s'en faisait pas beaucoup pour prier Dieu de détruire ses ennemis. Et nous avons même un psaume là-dessus qui, en tant que chrétien, nous sommes obligés de dire « Seigneur, détruis le mal dans mes ennemis, mais pas l'ennemi. » Parce que Jésus nous dit d'aimer ses ennemis. Une autre chose aussi, par exemple, comme on considère que Jésus se dit le nouveau temple de Dieu et son corps mystique, c'est-à-dire nous-mêmes, on voit là-dedans l'abrogation de toutes les pratiques culturelles de l'Ancien Testament. Alors, le Nouveau Testament, c'est vraiment un accomplissement de l'Ancien, mais un dépassement de l'Ancien. Le deuxième, donc, ça ne s'attendra pas tellement là-dessus, un deuxième faux sens des béatitudes, lui, est plus dangereux et il est plus pratiqué. C'est le sens que les béatitudes, c'est une morale. Alors, une morale, ça veut dire « fais ça, puis ça va marcher ». T'as juste à faire ça. Alors, on sait que le Nouveau Testament, c'est pas une morale. C'est à la source de diverses morales, mais c'est pas une morale.
Mais qu'est-ce que c'est la différence, par exemple, entre une morale et des préceptes
de vie? Justement, la différence entre une morale et le Nouveau Testament, on avait, dans le passé, il y a une vingtaine d'années, traduit les évangiles en un seul livre en disant « faites ça et vous vivrez ». Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà vu ce petit livre, « Faites ça et vous vivrez ». Et c'était les évangiles. Et on l'a retiré de la circulation parce que, justement, l'évangile, ce n'est pas une morale. D'ailleurs, Jésus va dire lui-même, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Alors, rien, c'est beaucoup, là. Il ne reste pas grand-chose, là. Alors, l'évangile, ce n'est pas une morale. Alors, pourquoi d'abord nous l'enseigner, puis nous dire de le vivre, hein? C'est la question. Alors, l'évangile, ce n'est pas une morale. Il y a un troisième faux sens des béatitudes, c'est ce qu'on appelle en allemand, là, disons en français, c'est une morale de circonstance. Autrement dit, quand il y a un fondateur de religion, évidemment, il y a un spirit là, tout particulier, et ceux qui connaissent le fondateur sont capables un peu d'observer davantage les prescriptions. Mais qu'à la longue, ça baisse, puis finalement, donc il y en a qui pensent que l'Évangile c'était fait uniquement pour les disciples du temps de Jésus, mais que maintenant, aujourd'hui, c'est impossible. C'est impossible parce qu'en étant avec Jésus, tout ça, en le suivant partout, mais c'est impossible que cette interprétation soit vraie parce que l'Évangile, les béatitudes s'adressent à tout le monde jusqu'à la fin des temps, et on le voit dans le final de Matthieu, et que Jésus a prié pour que chaque homme puisse vivre les béatitudes. Donc, c'est quoi le vrai sens des béatitudes?
Alors, si je comprends bien, c'est pour ça que vous insistez pour parler aujourd'hui de l'actualisation des béatitudes.
Oui, pour mieux les connaître. Parce que le vrai sens des béatitudes, c'est que l'Esprit-Saint seul peut nous faire vivre les béatitudes. Il faut même pas se forcer à vivre les béatitudes. Il faut se forcer à les connaître.
Il faut nécessairement une démarche volontaire ici, là. Ça n'arrive pas tout seul.
Non, il faut une décision de collaborer à cet appel, à cette instruction possible qui peut nous libérer et nous rendre heureux. Mais c'est dans nos consentements, bien sûr, que la grâce fructifiera. Mais c'est la grâce, non seulement dans nos consentements, mais tout ce qui précède et tout ce qui suit. Donc, et au Québec, là, j'aimerais dire une chose que je pense vraiment, c'est qu'on vit beaucoup le semi-pélagianisme.
Expliquez-nous ça.
Le semi-pélagianisme, ça, c'est « aide-toi, le ciel t'aidera ». On vit tellement ça que Shell en a fait une annonce, « aide-toi, Shell t'aidera ».
Oui.
Vous savez comment les annonces sont des études sociologiques précises par des experts et qui nous donnent un reflet de notre culture.
Oui.
Alors, le semi-pélagianisme, c'est cette hérésie qui disait que « fais ton bout, Dieu fera le reste ». Ça ne marche pas en christianisme, ça. C'est une hérésie. Il y a le pélagianisme qui était pire. C'est que Dieu, on va l'avoir à coup d'effort. On aura assez fait notre possible qu'il sera bien obligé de nous donner le ciel. Ça aussi, c'est une hérésie. Et il y a l'autre hérésie qui est complètement à l'autre bout, c'est le quiétisme. C'est « t'as rien à faire, tout est donné ». Alors évidemment, tu tournes schizophrène, tu ne vis pas une vie réelle.
Alors, vous dites qu'il y a quelque part là-dedans une espèce de juste mesure.
Il y a une vérité qui n'est pas une hérésie à moitié. Saint Augustin l'avait déjà un peu signalé en disant « quand tu pries, fais tout comme s'il venait de Dieu, puis quand tu agis, fais tout comme s'il venait de toi ». C'est déjà beau, mais en fait, c'est que Dieu est toujours avec nous, du commencement à la fin, et pendant et toujours. La grâce est toujours là. À nous de la connaître et d'y collaborer.
D'accord. Moi, j'aimerais revenir sur la question du bonheur. C'est un concept qui est grand, qui est vaste et qui pose problème parce que c'est certain que tout le monde n'a pas la même conception du bonheur.
Non, j'en reviens encore, par exemple, au Québec. On pense que plus une personne souffre, plus elle va avoir une belle place au ciel. C'est comme si en arrivant au ciel, on arrivait avec des pots de sueur. Puis plus tu as un gros pot, plus tu vas avoir une belle place. Donc, le système de valeurs au ciel, ça serait que plus tu souffres, plus tu vas être heureux. Plus tu vis contre nature, ou plus tu souffres, plus t'es malheureux sur terre, plus tu peux être heureux au ciel.
Que le mérite résiderait dans l'accumulation de la souffrance.
Voilà, endurée, puis offerte. Alors que la conception juive est absolument pas dans cet ordre, surtout dans l'Ancien Testament, mais même dans le Nouveau. Au deuxième et troisième siècle, on a tellement valorisé l'offrande de la souffrance qu'à un moment donné, on s'est demandé si la souffrance n'était pas une bonne chose. Alors justement, on verra dans l'interprétation des Béatitudes, selon Luc, que la misère est à détruire et qu'elle est contre Dieu. Seulement que, dans l'amour, on est prêt à souffrir pour que quelqu'un s'en sorte. Voilà la valeur, pas de la souffrance, mais de l'amour de celui qui souffre par amour. Alors, si la souffrance devient alors un témoignage, une preuve d'amour extraordinaire, et c'est pour ça que Jésus dira, le signe qu'on aime vraiment quelqu'un, c'est qu'on est prêt à mourir pour lui.
Vous dites, quelque part dans vos écrits, que le bonheur promis dans les béatitudes consiste essentiellement à entrer dans le royaume instauré et inauguré. On sait que les premiers chrétiens attendaient un royaume terrestre. Le Christ les a déçus, c'est connu. Mais la notion de royaume, est-ce que c'est pas un peu dépassé, désuet? Comment est-ce qu'on définit le bonheur dont parlent les béatitudes? C'est tellement loin, la notion de royaume. Ça paraît complètement détaché là, de ce qu'on vit aujourd'hui.
Oui. Il faut, pour connaître la Bible et surtout en parler deux langues. Connaître la langue de la Bible, puis connaître la langue des gens de son temps. Par exemple, le mot « royaume », à quoi se réfère-t-il pour nous, Québécois? à la reine d'Angleterre. Mais moi, je ne l'ai pas vue souvent. Elle est loin. Et je ne veux pas faire de politique, mais nous autres, avons-nous vraiment vécu l'expérience d'un royaume? Je ne le crois pas. Au Québec, on a une reine, mais elle est tellement loin. Alors, comment traduire en français, en québécois,
oui.
Le mot royaume? Bien, c'est le dessein de Dieu. C'est tout le plan de Dieu. Mais un plan réussi. Parce que pour le juif, le mot royaume se référait au roi David, qui était le sommet de l'expérience politique, nationale et mystique du peuple juif, parce que David était un roi extraordinaire. Il a fait des fautes par après, mais c'est un roi extraordinaire. Alors, il a conduit son peuple à l'unité, pas longtemps, là, mais en tout cas, à une grande unité. Tellement que pour les juifs, tout ce qui était king, c'était bon. Vous allez chez Steinberg, vous avez les cornichons king, tout est king. Pour un juif, quand c'est king, c'est le sommet.
Peut-être, mais moi, ce que je cherche, ce que j'aimerais entendre, c'est une analogie avec le monde d'aujourd'hui,
oui,
dans notre contexte à nous,
alors,
qui remplacerait celle de royaume.
Oui, c'est la réussite infinie et totale de toute notre histoire personnelle et sociale.
D'accord. Vous dites, au sujet de la recension de Matthieu, que les béatitudes peuvent être source de vie, de liberté, un chemin de bonheur. Encore toujours la notion de bonheur. Mais pourquoi est-ce que ce ne serait pas nécessairement tout ça pour tout le monde? Pourquoi est-ce que vous dites « peuvent » au lieu de « sont »
C'est la différence entre la vision terrestre actuelle et la vision céleste. C'est que dans la vision céleste, le plan de Dieu va réussir. Dieu ne peut pas échouer son plan. Il est capable de réussir son plan. Quand il a parti toute la création, puis tout son plan, c'est parce qu'il savait qu'il réussirait. S'il savait qu'il aurait échoué, il n'aurait jamais parti. Donc, Dieu est maître de l'histoire. Personnel de chacun et total du monde entier.
Mais d'après ce que je vois, il ne peut pas réussir sans la volonté de l'homme.
Il a voulu que nous collaborions avec lui parce que son plan est l'amour. Or, l'amour, ça ne se force pas. Donc, il faut nos consentements. Alors, Isaïe 6, 9 et 10, Dieu nous court partout pour qu'on consente à vivre une vraie vie, l'homme nouveau.
Indépendamment du temps que ça peut prendre.
Indépendamment, durant notre vie terrestre, nous avons à apprendre à aimer et à être aimé. C'est le temps qu'il faut prendre. Mais dans la vie éternelle, je dirais quasiment, c'est à sens unique, on va rencontrer Dieu et là, on va avoir à le choisir.
Mais je pense que ce ne serait pas faux de dire qu'il y a des gens qui ont vécu toute leur vie et qui ne l'ont pas tout à fait appris durant leur vie terrestre.
Sûrement que c'est possible de vivre dans l'erreur longtemps. On en voit des témoins dans la Bible, Ecclésiaste, Siracide, Job. Mais on voit aussi que Dieu a toujours promis le salut et qu'en mourant, on le rencontre.
Alors c'est ça, je cherche la lueur d'espérance dans tout ça, là.
Oui, c'est là le rôle de l'Église, des témoins, des saints, du peuple de Dieu, des sacrements.
Ce que vous dites, c'est que si on ne l'a pas acquis durant sa vie terrestre, ça va nécessairement nous être accordé après.
Non, je ne peux pas dire ça. Ça va être offert. On a peut-être un choix définitif à faire au moment de la mort, libéré de toute contrainte. C'est une thèse de doctorat là-dessus à Rome... qui est de celui qui a commenté Gabriel Marcel, Roger Trois-Fontaine. Lui a fait une thèse doctorat pour montrer qu'à la mort, nous avons un choix définitif à faire de Dieu. Alors là, qu'est-ce qui arrive? Je ne le sais pas encore.
D'accord, et moi non plus. Je vais quand même revenir à Matthieu et je cite ce que vous avez écrit. « Les œuvres importent beaucoup moins que l'esprit et le cœur qui les dictent. » Fin de la citation. Comment croire vraiment que la vie d'un sans-abri, disons, a autant de mérite, sinon davantage aux yeux de Dieu, que celle d'un travailleur social ou d'un éducateur? Est-ce qu'il n'y a pas un écart évident? Comment ne pas apprécier davantage le mérite d'un homme ou d'une femme qui consacre toute sa vie à améliorer le sort des autres?
C'est une bonne occasion, je crois, ici, de dire que peut-être on découvrira des grandes valeurs de réforme sociale qui viendront des nouveaux journaux écrits par les sans-abri. Ils ont sûrement un rôle prophétique, non seulement dans l'Église, mais dans le monde. Et aujourd'hui, ils se sont donné un journal qu'ils vendent, 1 $, je crois. Je crois qu'ils gardent 50 sous pour eux autres. pour se louer une chambre. Mais là, on apprendra des choses sur notre société qu'on ne savait pas et qu'on pourra peut-être corriger grâce à eux. Autrement dit, je ne comparerai jamais la vie d'un sans-abri à un évêque. Je ne ferai pas ça, parce que je ne suis pas capable de juger de la valeur ni de l'une ni de l'autre.
D'accord. Les béatitudes, M. Truchon, avouez que c'est quand même tout un programme. Quand Jésus, qui savait bien qu'à toute fin pratique, il disait... il savait, dis-je, que ces prescriptions, elles sont impossibles à réaliser dans l'espace d'une courte vie. Ce qui m'intrigue, c'est que Jésus a répondu à cette même objection des disciples, et je cite, « Que point n'est besoin de se tendre en de violents efforts, la lumière brille d'elle-même. » Alors, dites-moi, pourquoi est-ce qu'on discute aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on s'en préoccupe tant?
Parce que la lumière est transmise par des hommes. Dieu a voulu que chacun de nous puisse devenir un lieu de révélation de lui-même et de nous-mêmes, pour que nous arrivions à découvrir qu'on est aimé de lui, qu'on est capable de l'aimer, qu'on peut s'aimer soi-même et qu'on peut s'aimer entre nous. Ça, c'est toute la prophétie. La parole de Dieu. Prenez la Bible, prenons la Bible. La Bible n'est pas la parole de Dieu. On dit souvent la Bible est la parole de Dieu. Non, la Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible, c'est le livre de la parole de Dieu, ce qui est différent. La parole de Dieu, ce n'est pas la Bible. La parole de Dieu, c'est un acte de Dieu dans lequel et par lequel il se révèle à une conscience dans un moment donné de l'histoire qui peut être écrite par la suite et qui peut porter et continuer sa révélation par la suite. Mais la parole de Dieu, elle se fait dans chacune de nos consciences. Et nous avons à la partager pour l'approfondir, l'enrichir et la connaître. Et c'est toute la vocation prophétique, non seulement de l'Église, mais de l'univers entier. Dans le Talmud, qui est un commentaire hébraïque de l'Ancien Testament par les Juifs, au chapitre 125, colonne B, il est dit ceci, que quand un homme meurt, il y a une page de l'abîme qui vient de disparaître.
Autrement dit, qu'il y avait une page qui s'adressait uniquement, exclusivement à lui.
Pour le monde entier. Autrement dit, chaque homme a un lieu de révélation, une place de révélation, un charisme de révélation. Chaque homme a, au creux de lui-même, une image de Dieu sous forme de Christ et particulière à lui sous un aspect donné. C'est pour ça que quand on aborde quelqu'un, il faudrait être attentif, il peut se produire une révélation.
Autrement dit également, peut-être est-ce que j'aurais de la difficulté à comprendre la foi d'un autre.
D'abord, l'écouter. Écoute Israël. Si on veut savoir quoi dire à quelqu'un, il faut d'abord l'écouter.
In cordis jubilum, Christum natum adoremus, un novo cantibus. Assumsi carnem filius, alleluia, Dei Patris altissimus, alleluia, in cordis jubilum, Christum natum adoremus, cum novo cantibus. In hoc natali gaudio, alleluia, benedicamus Trinitas, alleluia, Deo
dans un autre ordre d'idées, j'aimerais m'arrêter sur vos quelques commentaires, ceux que vous avez faits sur la situation des femmes au temps de Jésus. Évidemment, les choses ont bien changé, en particulier dans nos sociétés occidentales. D'après vous, M. Truchon, quel est l'impact de cette évolution sur la lecture que les femmes en particulier peuvent faire des béatitudes? Autrement dit, la femme contemporaine, est-ce qu'elle doit y voir un message différent de celle qui vivait au temps de Jésus, par exemple?
Bon, encore là, le temps est le temps. D'abord, aussi les personnes. Aujourd'hui, il se produit des phénomènes nouveaux dans le monde qui ne se sont jamais produits. Par exemple, le mouvement féministe. Ensuite, avant, il y a eu les mouvements syndicaux. Prenez Jean-Paul II, c'est peut-être l'homme qui a fait le plus de politique dans l'Église, comme pape, en allant dans des États et des continents, pour prêcher la paix et dire franchement à chacun les torts qu'il avait, autant aux États-Unis, autant en Russie. Et pourtant, vous voyez ce pape consacré, l'inventeur du syndicalisme en Pologne, Walesa, quasiment le canoniser dans sa fonction, et ainsi permettre par la Pologne une action extraordinaire au niveau politique de la Russie. Alors, quoi dire? Aujourd'hui, il se produit des questions nouvelles et des phénomènes nouveaux. Le mouvement mondial des jeunes, par exemple. Tout ça, c'est de l'Évangile. Le mouvement mondial des jeunes, au-delà des races, des cultures, les jeunes de Thésée, puis tout ça. Le mouvement féministe, le mouvement des jeunes, l'ONU, l'Organisation internationale pour la paix dans le monde, l'armée qui fait juste que faire une œuvre de paix, ils ont les fusils puis ils ne tirent pas. Ben, c'est quasiment Jésus qui dit à Pierre, rends ton épée, et c'est un signe des temps. Alors, les femmes, aujourd'hui, ont à réinterpréter d'une certaine manière toute la Bible.
Ce que vous
êtes rien que les béatitudes.
Ce que je crois comprendre, c'est que tout le monde est en train de se retrouver à peu près sur un même pied pour mieux s'unifier, pour mieux comprendre et accepter la grâce.
Absolument. Depuis la bombe atomique avec Einstein, qui en a permis la fondation, on a eu tous peur en même temps. Or, la peur est le contraire de la foi. Donc, la foi maintenant est un appel mondial.
Vous écrivez encore que nous avons trop séparé valeurs humaines et valeurs chrétiennes, vie humaine et vie chrétienne, vie temporelle et vie éternelle en devenir. Or, une valeur humaine est une valeur chrétienne en devenir qui s'ignore et qui n'est pas à terme. Fin de la citation. Et c'est-à-dire que tous les humains sont des chrétiens en devenir, des chrétiens qui s'ignorent?
Bon, c'était la question. Un jour, il y a eu une dispute théologique entre le cardinal Danielou puis Karl Rahner. Alors, Danielou, lui, il disait, probablement que tout le monde va devenir catholique un jour. Rahner disait, probablement pas, parce que le christianisme est un ferment qui va avoir un rayonnement sur tout le monde, mais chacun va garder sa vocation. Alors, c'est évident que moi, si je rencontre un bouddhiste, j'essaye pas d'en faire un chrétien, ce serait malhonnête. Alors, j'essaye d'en faire un meilleur bouddhiste possible. Si un jour il bascule dans ma foi, j'en serai pas fâché. Alors, toutes les religions qu'il y a dans le monde sont dans le dessein de Dieu. Bon, alors, ce dessein de Dieu-là, il est grandiose, il est considérable. Est-ce qu'il existe des valeurs humaines? Est-ce qu'il existe des valeurs chrétiennes? Bon, on a souvent, moi je pense qu'un chrétien serait supposé aller plus loin dans l'humain. Autrement dit, comme je disais des fois, il n'y a pas de patate chrétienne. Quand on bénit un bécic, le bécic n'est pas changé. Quand on bénit une pomme, elle n'est pas meilleure qu'avant. Qu'est-ce qu'il y a de changé? Alors, on devrait plutôt bénir le Seigneur que la pomme. On devrait plutôt bénir le Seigneur que la pomme, puis entre nous, se bénir plutôt que bénir les objets. Alors, qu'est-ce que c'est? Prenez une médaille miraculeuse. Est-ce qu'une médaille est miraculeuse? Je crois que c'est la Vierge qui est miraculeuse. Mais elle peut agir par la médaille. C'est tout le domaine sensible des sacrements. Mais quand on donne aux choses une valeur spirituelle par elle-même, on est dans le fétichisme.
Mais ce que vous me dites, là, c'est que tous les hommes sont fondamentalement chrétiens. Je ne suis pas certaine que que l'univers des bouddhistes serait d'accord avec vous, que les autres grandes religions vous suivraient?
Absolument pas. J'ai justement pas. Chaque homme n'est pas chrétien qui s'ignore. Chacun a sa vocation pour aider chacun à avancer. Les traditions religieuses sont des moyens pour conduire à Dieu. Et elles s'enrichissent les unes les autres et se corrigent aussi les unes les autres. Or, nous autres, nous prétendons que le catholicisme est capable de les englober toutes. Je dirais le Christ, oui. Mais la doctrine, écoutez un Chinois qui récite le credo. Savez-vous que dans sa tête résident pas les mêmes images que vous? Dans la langue chinoise, il n'y a même pas le mot « non ». Alors, ça commence bien. Alors, voyez-vous que chaque homme, là, ne peut s'unir à son semblable que par l'infini qu'il dépasse.
Ça me paraît un petit peu complexe, oui. Mais on va continuer d'y réfléchir. Vous dites encore que les béatitudes sont le trésor des pauvres, de ceux qui veulent vivre avec un grand V. Mais tout le monde aspire à une vie pleine, remplie d'amour, de satisfaction. Est-ce que les béatitudes, selon vous, c'est le seul moyen?
Bon. D'abord, l'histoire, là...
Des pauvres qui veulent vivre.
Des pauvres.
Le trésor des pauvres.
Le trésor des
pauvres.
Paul VI disait que les pauvres sont le trésor de l'Église. Le pape Paul VI disait ça. On peut dire que les béatitudes sont le trésor des pauvres. Donc, c'est le trésor au carré de l'Église.
Sans doute, mais je pense qu'il faudrait peut-être revenir sur la
définition. À l'autre question.
Je pense qu'il faudrait d'abord revenir sur la définition des pauvres.
Oui,
de quels pauvres est-ce qu'on parle?
C'est pour ça qu'il ne faut pas remettre tout à plus tard. Les pauvres de Yahvé, c'est des millionnaires. C'est que tout homme est fait, en expliquant ce que je vais dire, là, tout homme est fait pour être millionnaire. C'est-à-dire d'avoir tout ce qu'il faut pour son complet épanouissement, pour atteindre sa pleine réalisation. Mais il faut prendre attention, là, c'est pas ça, à travail égal, salaire égal, que tout le monde ait le même salaire, c'est pas ça. Prenez par exemple mon oreille, qui a une quantité de sang, n'a pas le même besoin de sang que mon cœur. Alors si vous donniez la même quantité de sang à mon oreille qu'à mon cœur, elle va tomber à terre, ça va être une catastrophe. Alors c'est pas du côté à salaire égal, c'est du côté atteindre son maximum dans le plan de Dieu. Et peut-être que du côté de l'argent, quelqu'un a moins besoin d'argent qu'un autre, mais qu'il n'en manque jamais. C'est-à-dire que le plan de Dieu, ce n'est pas qu'on vive dans la misère, c'est de nous en sortir.
Justement, j'allais dire, je pense que vous avez opposé misère à pauvreté.
Exact. Parce qu'en français, on a le même mot, mais en hébreu, il y a 5 mots sur lesquels il faudra revenir pour expliquer la misère. 4 pour la misère, puis 1 pour le bonheur. Alors, ça sera bien important de préciser ça. Parce que la misère, ça ne peut pas être source de bonheur, c'est un argument pour montrer que Dieu n'existe pas.
Alors donc
la misère ne conduit pas à Dieu.
Donc on s'en tient à la notion de pauvreté.
La pauvreté, il me faudrait mettre entre guillemets, parce que c'est les pauvres de Yahvé, c'est des pauvres spéciaux, c'est des pauvres qui sont millionnaires d'être habités par Dieu et qui travaillent à détruire la misère du monde, mais qui intérieurement sont heureux.
Monsieur Truchon, on aura l'occasion d'en reparler du concept de pauvreté et je vous remercie.
Merci.